Merci Père, quel privilège nous avons que d'être dans ta présence. Et nous sommes vraiment confondus par tant d'amour. Et je prie Seigneur que dans ce temps, Seigneur, tu continues ton œuvre. C'est comme si tu nous avais convoqués dans tes appartements et que ta tendresse est manifestée. Juste avant de prendre la parole de Dieu, qu'on puisse vraiment être là et qu'on puisse les yeux fermés, qu'on puisse déposer, dire au Seigneur ce qu'il y a sur notre cœur. Je sais qu'il y a une semaine, on a été pas mal chahutés pour plusieurs. On a deux chers frères qui ont eu un AVC. Le Seigneur est intervenu, ça secoue. Peut-être que vous êtes en pleine forme, tant mieux. Mais que dans ce temps, on puisse ouvrir notre cœur, ouvrir nos pensées, là où nous sommes, à la maison également. Et nous voulons continuer à dire à notre Dieu, sois le Maître, sois le Roi. Sois le Seigneur, merci pour ta tendresse. Et alors que nous sommes dans sa présence, j'entendais le Seigneur qui nous disait, le Père nous disait, mais bienvenue, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Comme si le Père qui nous accueillait individuellement, qui nous disait, mais viens, il nous prenait par la main. C'est comme s'il y avait, tout à l'heure, il y avait comme un chemin plus près du Père, qui a été ouvert au travers de Christ, lavé par le sang de l'agneau, et ce chemin est là. Et c'est comme si je voyais certains qui étaient assis, qui n'en pouvaient plus, et le Père venait et prenait la main, viens avec moi, viens. Et je nous invite à saisir cette main du Père ce matin, qui est en train de faire au-delà de ce que nous pensons, ou au-delà de ce que nous imaginons. Et nous voulons simplement être dans cette position de foi, de dire nous voici. Répondons au Père, parlons dans notre cœur. On peut lui dire, je te tends la main, je prends ta main ce matin. Amène-moi là où toi tu veux. Korana marianda, sorana mainde. Koramana tseto korana tchenda, korana mainde. Korana tsecho komai. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Continue ton œuvre. On reste ouvert à sa présence. Tout à l'heure, j'ai eu à cœur pendant tout à l'heure je vais faire mon message un peu plus court pour avoir du temps pour venir et continuer à être dans la présence du Père et à être renouvelé. Amen. Une parole très forte sur mon cœur. Le thème particulier ce matin, et je vous lis dans Ésaïe, chapitre 42, deux textes de base pour la pensée que j'ai reçue pour nos vies, non seulement pour nous en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'église. La parole de Dieu, c'est la parole qui a été proclamée par Ésaïe il y a bien longtemps, et Ésaïe, de la part de l'Éternel, pourra dire... 42, versets 8 et 9, dira « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveau. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. » Et dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, pour élire, je vous encourage à la maison à relire le chapitre 42, 43 et la suite, mais en tout cas ces deux chapitres. Et dans Ésaïe chapitre 43 et les versets 18 à 19, Ésaïe dira de la part de l'Éternel, « Ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. » Ne la remarquez-vous pas ? Est-ce que vous la remarquez ? Est-ce que vous avez remarqué que Dieu faisait quelque chose de nouveau? Eh bien, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Dieu fait une œuvre nouvelle. Ce n'est pas nouveau que de prêcher sur la nouveauté inhérente à Dieu, mais dans mon cœur, c'est comme quelque chose qui s'est également imposé. Et c'est Christian, la semaine dernière, qui nous parlait de la réformation, de la suivance de Christ, de suivre Christ, qui nous amène à entrer dans des changements, dans quelque chose de nouveau. Vous savez, il y a très longtemps, j'ai travaillé, quand j'étais étudiant, dans une chaîne de restaurants rapides, fast-food. Et puis, je me souviens, j'étais au grill, donc je faisais des hamburgers, toutes sortes de hamburgers. C'était très défiant d'ailleurs, hein, parce que quand il y avait beaucoup de monde, on en faisait plein. Mais quand il y avait des gens qui passaient au drive, il fallait juste se souvenir de tous les différents hamburgers qu'il fallait faire. Et j'ai beaucoup transpiré. Et les gens croyaient que je travaillais beaucoup, mais comme je transpire facilement, c'était un avantage, je travaillais quand même. Mais ils croyaient que je travaillais encore plus parce que je transpirais beaucoup. Et puis, ce que j'ai noté, c'est que, vous savez, dans le commerce, on a quelque part, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui fait vendre. Hein. Donc, à l'époque, je me souviens, les cornichons qu'on coupait en deux, des fois, on les coupait en trois. Et au lieu de mettre la viande, le fromage, la salade, on mettait la salade, la viande, le fromage. Et ils changeaient le nom de l'hamburger. Ils disaient « Nouvel hamburger ». C'était magnifique. J'exagère un peu. Hein. Mais quelque part, la nouveauté de notre Dieu est bien différente. Alors vous allez me dire, c'est vrai que d'un côté, notre Dieu est éternel. Hein, la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, nous est dit « Mais Jésus est le même ». Hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord ? Donc il n'y a rien de nouveau, Dieu est éternel. Et puis Jacques, chapitre 1 et au verset 17, il est dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Pour nous, c'est une bénédiction, parce que le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a, on lit le livre des Actes, on lit les prophètes, eh bien c'est exactement le même Dieu, il n'a pas changé. Et nous pouvons ce matin nous approcher de lui avec foi et confiance que Dieu est extraordinaire, il ne change pas. On a l'Ecclésiaste, vous connaissez également pour ceux qui lisent la parole de Dieu, l'Ecclésiaste au chapitre 1, au verset 8 à 10, qui dira, vous savez, ce que dit l'Ecclésiaste souvent, il n'y a rien de, vous connaissez, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc pourquoi parler de la nouveauté? Pourquoi parler de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape, de nouveaux projets, d'une nouvelle relation avec Dieu, d'une vision renouvelée? Pourquoi en parler? Le Qohélète nous dit, bon, j'ai tout regardé, j'ai tout fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, on aurait envie de lui dire, mais maintenant, il y a quand même des choses nouvelles, hein, avec la technologie, les réalités virtuelles, l'immersion, les multimédias immersifs, c'est absolument extraordinaire. Hein. Dans certains cas, il y a des médecins qui sont à l'autre bout de la planète, qui interviennent sur des opérations, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y a quand même des choses nouvelles. Mais ici, l'état d'esprit du Qohélète, de l'Ecclésiaste, eh bien, va être un état d'esprit qui va être plutôt, de toute façon, rien ne va changer. De toute façon, bon, je sais que Dieu existe, je sais que j'ai goûté, que j'ai vu certaines actions de la part de Dieu, j'ai eu un miracle, j'ai été guéri il y a 10 ans de cela, j'ai prié, il y a eu un exaucement de la prière, bon, j'espère que c'est plus récent, mais Dieu agit. Mais après tout, au fond de nous-mêmes, est-ce que quelquefois, on n'aurait pas tendance à se dire, bon, j'ai été dans beaucoup de conférences, j'ai écouté beaucoup d'orateurs extraordinaires, j'ai été dans beaucoup d'actions, et puis au final, j'ai le sentiment, finalement, que rien ne change. J'ai prié pour ma guérison, j'ai prié pour que Dieu touche un membre de ma famille, J'ai prié pour que ce que je lis dans les actes, je le vois dans mon église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le Kohelet, il est dans cet état d'esprit-là. Et il va dire, de toute façon, tout revient comme avant. Mais la différence, c'est que dans l'historiographie hébraïque, il y a une dimension, un caractère cyclique, et lui, il reste sur le cyclique. Il tourne en rond. Mais dans l'historiographie hébraïque, il y a un cycle qui est progressif. C'est-à-dire que Dieu, au travers de son action, au travers de ce qu'il fait dans une famille comme Abraham, dans un peuple comme le peuple juif, également dans l'Église, il y a une progression, il y a une dynamique, il y a quelque chose qui bouge, même si on a l'impression que rien ne bouge. Et quand Ésaïe parle, il va parler à un peuple qui est c'est le désastre. Ils vont aller en captivité. Toutes les promesses de Dieu s'écroulent. Et Dieu parle, et des chapitres 1 jusqu'au chapitre 39, eh bien, le prophète, de la part de Dieu, va expliquer le jugement, les problèmes. Il va quelque part parler de la part de Dieu pour le présent. Et il ne va pas dire « c'est pas grave ». Il ne va pas dire « bon, écoutez, bon, ça ira mieux demain ». Il va, de la part de Dieu, dire « mon plan et mon projet pour mon peuple, c'était un autre projet, c'était un projet qui était un projet, comme il a été lu ce matin dans Jérémie, un projet de paix, un projet qui est valorisant, un projet qui est enthousiasmant, peut-être défiant, mais il y a un projet de Dieu qui est là ». Et en même temps, il a laissé la liberté à son peuple. Et dans ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils ont oublié de se confier en l'Éternel, un certain nombre de malheurs arrivent. Et Dieu le Père, qui voit son peuple, a ce cœur de Père, mais en même temps, il dit la vérité. Il dit la vérité, c'est que par rapport à votre position, eh bien, il va y avoir un temps de captivité. Mais en même temps, il dira, voilà un germe qui arrive. Le germe, c'est la parole de Dieu, une parole de puissance, une parole qui est là en plein milieu des ténèbres. Et Dieu dit, au travers de Ésaïe, il dira, mais les premiers événements se sont produits, je vous en révèle de nouveau. Et il n'est pas en train de dire à son peuple, ils ne sont pas en super forme, tout ne va pas bien, mais il dit à l'avance, je fais une œuvre nouvelle. Et au chapitre 42, je vous l'annonce avant qu'il y ait ce germe. Au chapitre 43, voilà, maintenant c'est le germe, c'est là. Et même si vous ne le voyez pas, le changement, la puissance de changement est déjà dans le cœur de Dieu. Amen. Donc pour nous, c'est encourageant, frères et sœurs, parce que même si on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on est dans une impasse, eh bien, Dieu nous dit, voilà, j'ai préparé pour vous quelque chose de nouveau, une nouvelle étape, une nouvelle vision. Et quand on voit dans la parole de Dieu, quel est ce nouveau? Qu'est-ce que Dieu, quand Ésaïe parle, quel est le nouveau dont Ésaïe parle? Qu'est-ce qui est nouveau? J'imagine, vous imaginez, hein, les Israélites qui étaient contemporains de la destruction, en tout cas de la captivité du royaume du Nord en 722. Là, Ésaïe est en train de parler, donc il voit qu'il y a des problèmes qui sont en train d'arriver. Et j'imagine le peuple de Dieu, quand ils écoutent Ésaïe dire, voilà, il y a quelque chose qui est en train de germer. Et j'imagine, alors qu'ils sont en train de vivre d'abord loin de Dieu, et puis ils vont partir en captivité, ils vont souffrir, ils vont connaître la mort pour certains. On peut se dire, mais quel est le sens de cette parole? Quel est le sens de cette parole? Mais certains ont continué à lire le prophète Ésaïe, même en captivité, même au retour de captivité. Certains ont abandonné. Certains ont baissé les bras. Vous savez, on est dans une période défiante depuis 2 ans. Et malheureusement, effectivement, des frères et sœurs ont baissé les bras. L'Église connaît une certaine dispersion. J'ai eu l'occasion de partager avec beaucoup de pasteurs d'Église, et ils disent tous la même chose, tous la même chose. C'est une période qui est vraiment un petit peu compliquée quand même, hein, pour implémenter des projets, pour se rassembler, on a plein de projets, même au niveau du réseau, mais c'est compliqué, alors on espère que ça va bouger. Mais cependant, Dieu a permis cela. Et au sein de la pandémie, au sein de la difficulté, au sein de la maladie, au sein du découragement, peut-être des problèmes d'ordre économique, peut-être dans les familles, des tensions, Dieu vient, je le crois profondément, et il est en train de nous dire, mais voilà un germe de changement, de transformation. Et quand il est en train de parler, il parle de quoi ? Prophète Ésaïe, ceux qui ont continué, qui ont persévéré jusqu'à la nouvelle alliance, eh bien, ce qui est nouveau, c'est l'alliance. Nouvelle alliance, nouvelle naissance, nouvelle espérance. Au temps opportun, voilà que Jésus-Christ vient sur la terre. Et on l'a chanté ce matin, il est Dieu, il s'est fait homme. Et au travers de son sacrifice, il y a pour nous la possibilité d'être reconnecté, d'être réconcilié avec notre Dieu, avec le Père. Cette réalité est une réalité nouvelle. Et nouvelle, kainos en grec, ce n'est pas quelque chose comme les nouveaux hamburgers qui, dans le temps, arrivent, c'est récent. Mais le mot grec signifie quelque chose de nouveau dans son caractère, dans son type, dans sa caractéristique. C'est quelque chose de nouveau, je dirais, en profondeur. Par exemple, quand dans Matthieu 9, on peut aussi avoir Marc 2, qui parle de cette parabole, vous savez, de ce vin nouveau qui est mis dans des anciennes outres, et qu'il est nécessaire de mettre du vin nouveau dans des outres nouvelles. Vous vous souvenez de ce passage ? Eh bien, dans ce passage, le vin nouveau, c'est néos, donc c'est récent dans le temps. Mais le mot pour les outres, nouvelles, neuves, c'est kainos. Autrement dit, le vin qui va fermenter a besoin d'être dans une outre, pas seulement récente, mais qui est foncièrement différente, qui est foncièrement dans son caractère, dans sa caractéristique différente. Parce que si l'outre est ancienne, à ce moment-là, le vin nouveau qui fermente va faire augmenter le volume. Et malheureusement, on sait que l'outre ancienne va éclater. Elle ne pourra pas supporter la présence de ce vin nouveau. Et quelque part, c'est ce que Dieu fait dans nos cœurs et dans nos vies. La bonne nouvelle, on l'a chantée ce matin, c'est que nous sommes maintenant dans cette nouvelle alliance. Nous sommes quoi ? Une nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau si nous avons accepté Christ. Et ça, ça change tout. Et ça nous donne beaucoup d'espoir. Parce que tout est possible avec le Seigneur. Amen. Alors je sais que tout ça, vous le savez. Mais en même temps, on a besoin finalement d'être proactif pour entrer dans ce nouveau, le nouveau de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a deux événements, il y a deux passages où quelque part Dieu est surpris que l'on s'étonne de sa capacité à faire des choses nouvelles. Aujourd'hui, on est en train de partager, et peut-être que dans votre cœur ou dans votre pensée, vous dites, ok, d'abord, j'ai déjà entendu ça, et puis après tout, qu'est-ce que ça change pour ma vie ? Qu'est-ce que ça change pour ma vie ? Nous percevons que Dieu est en train de faire des nouvelles choses. Il est en train de travailler nos cœurs dans cette période de difficulté, mais il veut faire vraiment des choses nouvelles, non seulement dans nos vies, mais dans son Église et au travers de son Église. Il y a deux passages, vous vous souvenez, quand c'est Dieu qui vient et qui dit à Abraham, « Écoute, Sarah va enfanter dans un an, je reviendrai, et puis Sarah aura un enfant. » Vous vous souvenez de cela ? C'est dans Genèse 18, 14. verset 13. L'Éternel dit à Abraham, mais pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Là, pour le coup, elle a raison, humainement. Et Dieu dira, au verset 14, écoutez bien, il dira, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Dieu s'étonne que nous nous étonnions de sa capacité à faire des choses nouvelles. Il est créatif. Vous savez, quand Dieu dit que la lumière soit, alors on n'y était pas, mais il y a quand même la lumière hein, aujourd'hui. Quand Dieu dit que la lumière soit, vous savez que la lumière fut. Et quand, pour ceux qui font de la physique, c'est quand même un phénomène extraordinaire. Hein. Bon, d'abord, c'est bien qu'on ait la lumière. Pour ceux qui ont été dans des grottes, où d'un seul coup, vous savez, la spéléo, d'un seul coup, la flamme s'éteint. Pas un bruit, fait très très sombre. C'est quand même différent quand on est dans le noir. La parole de Dieu est créatrice, mais elle crée à partir de rien. Et souvent, j'aime à dire que dans nos situations, qu'est-ce que l'on est en train de vivre ? Qu'est-ce que l'on vit ? On a l'impression que finalement, on est en bout de course. On ne sait plus où tourner la tête. Et souvent, je dis, mais pour l'avoir vécu, et ça, c'est quelque chose qui est dans mes entrailles, et souvent, je le dis parce que je le crois, un mot de la part de Dieu et les choses peuvent changer. Ça n'enlève pas le fait qu'il faille être résilient, être discipliné dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle. Mais j'aime notre Dieu parce que quand Dieu dit c'est le moment, il parle et le miracle arrive. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ce matin j'ai vraiment envie de nous encourager, de dire est-ce que nous sommes prêts à entrer dans le nouveau de Dieu ? Ça peut être positif, hein, là d'avoir un enfant, donner la vie, c'est extraordinaire. Mais il y a un deuxième exemple dans la parole où Dieu dit la même chose. C'est dans Jérémie 32, 26. C'est le roi de Juda, Sédécias, qui a laissé aussi tomber l'Éternel. Et il y a toutes sortes de prophètes. Hein. La voix prophétique dans l'Ancien Testament, ça a duré à peu près, pas que, mais principalement 5 siècles, où Dieu a envoyé ses prophètes dans des circonstances de crise. Et voilà que Sédécias a des prophètes dans sa cour qui vont lui dire, mais vas-y, va en guerre, fais ce que tu veux. Dieu va te bénir, Dieu va t'encourager, Dieu est avec toi. Et voilà qu'il y a ce prophète qu'on appelle Jérémie. Et Jérémie, la caractéristique des vrais prophètes, c'est qu'ils ne disent que ce que Dieu leur demande de dire. Et dans l'Ancien Testament, si ce n'est pas le cas, ils avaient une école assez sévère, hein, parce que si ce n'était pas le cas, ils étaient lapidés. Donc c'était un bon entraînement quand même. Il y a un appel pour être... Non, on est sous la Nouvelle Alliance. Et là, il est dit au verset 26 du chapitre 32, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Tout simplement, dans ce contexte-là, Dieu était en train de dire à Sédécias et à son peuple, « Si tu ne changes pas de voie, si tu ne te repens pas, si tu ne te purifies pas, si tu ne crois pas la parole, eh bien, je vais livrer Jérusalem aux Babyloniens. Impensable. C'était impensable. C'était même politiquement incorrect. C'était pas possible. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas faire cela. » Alors, vous allez me dire, c'est l'Ancien Testament. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours le même Dieu qui aime assez pour nous dire la vérité et qui dit ce qu'il fait souvent et qui fait ce qu'il dit. Sédécias n'a pas supporté cela, il le met en prison. Et Dieu, d'une manière assez étonnante, dira, mais vous savez, lorsque je vous parle, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une figure de style. Dieu nous parle, et quand Dieu nous parle, moi quand je lis ces textes, je me dis, mais c'est important de le prendre au sérieux. Parce que quand Dieu parle de bénédiction, bien sûr qu'on l'écoute, et quand Dieu nous met en garde de dire mais persévère dans la foi, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans cette attitude que tu as de vouloir aimer Dieu et le servir. Si nous sommes là ce matin, eh bien, c'est parce que nous l'aimons, c'est parce que nous avons envie de grandir avec lui, c'est parce que nous avons envie qu'il se serve de nous pour sa gloire. Et quand Dieu parle, c'est quand même... Donc il dira, mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part ? Alors, nouvelle naissance, nouvelle alliance, nouvelle naissance, nouvelle espérance. Quand il est parlé de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, la nouvelle terre. Vous avez remarqué, quand Dieu parle à son peuple, c'est Dieu qui a l'initiative en fait. Il dira, je vais faire quelque chose de nouveau. C'est déjà en germe, j'ai la puissance créatrice pour le faire. Si je dis quelque chose, j'ai la puissance pour le faire. Si Dieu nous appelle à son service, si Dieu nous appelle dans un ministère, si Dieu nous appelle à le suivre, à le servir, alors il va nous donner la force et les moyens de le faire. Et ici, c'est ce que fait Dieu. Si Dieu a l'initiative... Et je crois que c'est ce qu'il nous dit aussi en tant qu'Église. Eh bien, nous avons l'initiative, frères et sœurs, d'y entrer ou pas. Nous avons cette initiative-là. Comment ? De quelle manière ? Quelle manière aujourd'hui, quelles que soient les déceptions du passé, quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient, eh bien, aujourd'hui, si Dieu nous dit qu'il y a un temps nouveau, il y a une saison nouvelle, il y a des choses nouvelles qui se préparent, et bien, aujourd'hui, nous avons la possibilité de lui dire oui, je suis d'accord avec ça. Et comment faire ? D'abord, c'est quoi ? C'est simplement de croire que Dieu a cette capacité. Et souvent, on se dit, mais j'ai du mal à croire. C'est compliqué, c'est difficile, vous ne connaissez pas les circonstances, etc. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée ou qu'elle est lue, je n'ai pas besoin de tout comprendre, je n'ai pas besoin de me sentir à la hauteur. C'est tout le sens de la nouvelle alliance. Hein. La nouvelle alliance, par rapport à l'ancienne, c'est que tout a été accompli à la croix, que Dieu a tout accompli, le chemin est ouvert. Et donc, nous avons simplement, entre guillemets, simplement besoin de croire et de nous mettre en action. C'est ça, en fait. Et vous savez que nous pouvons être sous le régime de la nouvelle alliance et vivre comme si nous étions sous l'ancienne. C'est-à-dire, eh bien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne prie pas assez, etc. Donc, Dieu ne va pas m'accepter. La nouvelle alliance, c'est que tout a été accompli en Christ et que le chemin est ouvert. Et que Dieu nous prend par la main et nous dit, viens, crois, fais-moi confiance. Vous savez, la foi, c'est un choix. La foi vient de ce que l'on entend. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien de se réunir, c'est bien de lire la parole, c'est bien de la proclamer ensemble. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, qui est une parole de vie, Dieu n'est pas un menteur. Et lorsque j'entends la parole de Dieu et que dans mon cœur, j'arrête mes raisonnements et je dis « Oui, je crois ta parole, Seigneur. Je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs. Il me semble que je suis dans une impasse, mais je crois ta parole. Je crois que tu m'aimes, je crois que je suis ton enfant. Je crois que tu m'as appelé pour te servir. Je crois que tu m'as appelé pour être un témoin. Et je relève le défi, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. » Beaucoup de textes qui nous montrent que lorsque la fille de Jaïrus est décédée, le papa vient, elle est d'abord malade, il appelle Jésus. Pendant que Jésus guérit la femme atteinte à perte de sang, des personnes viennent et lui disent, le récit se trouve dans Marc 5, « N'importune plus le maître, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Ta fille est partie. » Et Jésus ira quand même. Il vient, il va dans le lieu où la fille est morte. Il y a des gens qui pleurent, qui crient. Et Jésus dira, mais elle n'est pas morte, elle dort. On sait qu'on a affaire ici à une résurrection. Tout le monde rigole, tout le monde se moque. Et Jésus, vous savez ce qu'il fait ? Il ne va pas essayer de les convaincre. Il ne va pas essayer de leur dire, écoutez, vous savez à qui vous avez affaire. Il dira, écoutez, s'il vous plaît, vous pouvez nous attendre dehors. Il garde les parents et il va garder 2-3 disciples et il va ressusciter la fille. Puissance de vie. Puissance de vie. Et moi, je n'ai pas envie d'attendre dehors. Je n'ai pas du tout envie d'attendre dehors. Moi, j'ai envie d'être dans la pièce quand Jésus fait un miracle. Et vous savez, ce qui nous disqualifie, ce n'est pas Dieu qui fait une disqualification. C'est notre incrédulité, c'est mon incrédulité. Et si je choisis de dire, alors on ne va pas être des fanfarons, on ne va pas aller sur des choses que Dieu ne nous a pas dit. Mais quand Dieu parle vraiment et qu'on avance sur ce qu'il dit, alors on peut y aller. Hein. Amen. J'ai ce sentiment, cette conviction que Dieu veut nous renouveler dans cette position de foi. Également dans cette passion renouvelée. Vous connaissez bien ce texte dans Apocalypse 2, verset 4. Dieu aime son Église. Hein. Il fait des compliments à son Église, mais il la connaît bien aussi. Vous savez, quand il scanne l'Église évangélique de Bussigny-Lazare, le scan est extraordinaire. Il sait où on en est. Donc on peut être relax parce qu'on n'a pas besoin de lui cacher quoi que ce soit. Et lorsqu'il parle dans le livre de la Révélation, il dira, c'est l'église d'Éphèse, mais il peut nous parler aussi à nous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et des fois, le Seigneur me le dit, en fait. Vous savez, on sert Dieu, on a vécu un certain nombre de choses. Et dans Apocalypse 2, verset 4, Dieu dit, vous savez pourquoi il dit ça à Éphèse? Vous savez pourquoi il le dit? Parce qu'il a prévu un changement pour cette église. Il a prévu une nouvelle étape. Il a prévu quelque chose de nouveau. Et donc, pour entrer dans le nouveau, il nous faut savoir quel est l'ancien, où on en est, dans quel état nous sommes. Et quelquefois, on a l'impression que ça va bien. Et Dieu vient et nous dit, non, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que l'on fait ce que l'on fait quand on a été des nouveaux convertis, quand on a été visité par le Saint-Esprit? D'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Dieu vient et nous dit, mais écoute, c'est une bonne idée que tu cherches Dieu et que tu sois renouvelé dans ta passion, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience. Vous savez, des fois, on parle de l'ancien et du nouveau. Et des fois, on en a marre, on est fatigué. Des fois, c'est un bon signe d'être fatigué. Parce que la fatigue de la routine peut nous motiver pour aller dans un changement. Mais le changement, on peut le faire nous-mêmes. J'en ai marre de ce boulot, j'en ai assez, ça me fatigue, donc je vais changer de travail, je vais changer d'église, je vais changer de femme, de mari. Bon, ça, c'est pas une bonne idée. Hein. Dans certains cas, c'est vrai que changer de travail, changer de maison, changer, il n'y a rien de mauvais à cela, hein, à part de changer de femme et de mari. Mais vous savez, lorsque Dieu nous renouvelle, dans notre vision, dans cet amour, dans cette passion, on peut être au même endroit et avoir un regard nouveau, avoir un élan nouveau, voir les gens. On a entendu ce témoignage hein, à Les Uns pour le week-end d'église. Hein, et quelqu'un disait, mais vraiment, j'ai envie, je vous aime, vraiment, la sœur était remplie d'amour. Il y avait une visitation, un regard nouveau, extraordinaire. Un discernement renouvelé. Et ça aussi, c'est important pour le changement. Et dans ça, c'est l'église à Laodicée. Pardon, et il dit, mais écoute, je te conseille, tu penses que tu es riche, mais en réalité, tu es pauvre. Et il lui dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or, c'est Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Et il est parlé d'un collyre, d'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Des fois, on a besoin d'être renouvelé dans notre discernement pour pouvoir entrer dans ces choses nouvelles. Nouveaux vêtements, nouveaux projets. Je crois qu'il y a des projets qui sont attachés à l'Église dans lesquels on va rentrer. Il y a des frères et sœurs qui vont nous rejoindre, qui vont venir parce que c'est le plan de Dieu. Et je crois que ceux qui sont anciens, eh bien, je crois qu'il y a aussi un appel à accompagner les nouveaux. Il y a tout un programme hein, qui est vraiment enthousiasmant. Je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Je continuerai sur certains aspects ce soir à 17h. Mais je voudrais juste qu'on prenne du temps pour juste mettre en pratique ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent de ce que Dieu dit. Peut-être Laurent, s'il te plaît, si tu peux venir. Et je sens dans mon cœur, je n'avais pas prévu de le faire avant, mais pendant la louange, j'ai senti que c'était bien que l'on fasse quelque chose de concret. Et si nous sommes à la maison aussi, on peut aussi vraiment se tenir devant Dieu. Et je nous invite, on va juste fermer nos yeux. Et on va permettre ce cœur à cœur avec Dieu, il est personnel. Et ce cœur avec Dieu, vraiment je crois que des chaînes vont tomber. Je crois que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, parce que c'est dans le plan et la volonté de Dieu, maintenant nous touche, vient dans nos cœurs, dans nos pensées, et alors que nous sommes dans sa présence, bien je vois également le Seigneur qui vient avec une huile de guérison. Et une guérison particulièrement sur des choses qui se sont passées et qui ont été blessantes. Il y a eu comme quelque chose qui a été cassé à cause d'expériences récentes ou moins récentes. Et il y a des choses qui ont été vécues, et c'est comme si le diable était entré et avait comme anesthésié certains domaines dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est le jour du miracle. Pourquoi ? Parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est Dieu, il nous aime, nous sommes ses enfants, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes accueillis. Et je crois que nous sommes là dans sa présence. Et ce que je ressentais aussi dans un temps de louange, prière cette semaine, comme si le Seigneur me rappelait, mais entre dans la présence de Dieu et jette les vieux vêtements, ceux qui ont été salis, le vêtement de la justice. Des vieux vêtements peut-être qui ne sont plus adaptés. Mets-les devant le Seigneur et il veut te donner des nouveaux. Un vêtement blanc purifié, lavé par le sang de l'agneau, le sang de Christ, qui purifie. Christ, Jésus est ressuscité. Il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Recevons, captons, saisissons la victoire ce matin. Et que nous puissions être là aussi pour lui dire, Seigneur, je veux entrer dans cette nouvelle étape. Seigneur, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La route est encore ouverte avec le Seigneur. Et Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi là où tu es. Et ce matin, nous voulons dire ensemble, nous voici Seigneur, nous voici. Seigneur, pour faire ta volonté. Il n'y a rien qui soit compliqué, rien qui soit trop dur pour toi. Il n'y a rien. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de notre Dieu ? Et je crois que, et je vois ce que je suis en train de voir, alors que nous sommes en train de parler au Seigneur, alors que nous laissons l'Esprit de Dieu agir, que nous laissons le sang de Christ nous purifier, nous laver, nous transformer dans notre mentalité. Et Dieu nous invite aussi à revêtir des vêtements de combat d'Éphésiens 6, parce que nous sommes appelés également à nous lever dans la foi, dans le courage, et également de prendre une position claire, claire. Et nous voulons nous revêtir de ces vêtements, de cette cuirasse de la justice, de cette ceinture de la vérité, de cette épée à double tranchant qui est la parole, le bouclier de la foi, les sandales que donne le zèle de l'évangile de paix, le casque du salut pour nous protéger et protéger nos pensées de toute pensée négative. Seigneur de gloire, glorifie ton nom. Vite, on va prendre ce chant, hein. On peut prendre le chant, je ne sais pas Sabine si tu veux venir. Et ce que je nous propose, c'est que on puisse, comme un acte de foi, vous avez remarqué, la semaine dernière, on a eu le privilège d'avoir une présidente, une dame. Et c'est bien, hein? Et je nous invite à faire quelque chose de nouveau. J'ai pas aussi prévu de le faire avant, mais je sens juste de le faire, donc soyez libre de le faire ou pas. Mais je vous invite pendant ce chant à vous avancer, à venir devant. Alors en gardant les distances, on a assez d'espace. Mais approchons-nous devant le Seigneur. On s'approche devant le trône du Seigneur. Et on parle au Seigneur et on reçoit. Si on a besoin d'une guérison, si on a besoin d'une consolation, si on a besoin qu'on puisse parler au Seigneur, qu'on puisse recevoir de sa part, comme un cœur à cœur avec, et comme un acte de foi également. Pourquoi s'avancer? C'est pas pour faire du spectacle, mais c'est juste pour dire, comme un acte prophétique, de dire, je fais quelque chose de nouveau, je m'avance, me voici devant toi. Amen. On prend ce chant. Si vous vous avancez, gardez les distances et qu'on puisse vraiment recevoir vraiment ce que Dieu a prévu. Alléluia. Merci Père. Que rien ne nous empêche ce matin de recevoir ce que tu as prévu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.